Et bonsoir, bienvenue dans le 10e épisode de la 3e saison de Culture Sans Yor. C'est l'émission hebdomadaire qui débriefe les matchs du Racing et l'actu du peuple sans Yor. C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les lundis. Dans un instant, on va s'intéresser au 6e succès en 6 matchs à domicile du Racing. Une victoire acquise face à Montpellier, 1-0 samedi soir. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Vous me le direz dans le chat de l'émission. L'actu du Racing sera consacrée aux résultats des autres équipes lensoises de ce week-end. À la pause, on jouera bien sûr avec le quiz de Culture Sans Heure. Et puis, en deuxième partie, dans le débat, on portera notre regard sur la nouvelle direction sportive du club. Francaise, manager général, le vrai faux départ de Grégory Thil. Êtes-vous rassuré par cette réorganisation ? Vous me le direz aussi tout à l'heure. Et puis, on n'oubliera pas bien sûr de se concentrer sur le prochain adversaire des Lensois, samedi, l'OM au stade Vélodrome. Pour m'accompagner, je vous présente le casting de ce 10e épisode. Il paraîtrait que son champ préféré au stade Bollard est tous à poil et on se caresse. On espère que juste qu'il ne le mettra pas en pratique ce soir. C'est Greg Lallemand, de la Voix du Nord et de la Voix des Sports qui est avec nous. Salut Greg.
Ah bah salut à tous, je suis super content d'être là, voilà. J'avais pas vu qu'Antoine était là, sinon j'étais vraiment très très heureux. Je viens de voir qu'il était dans le casting. Bon bah, on fera avec.
Salut Greg. Après le récent échec d'Hugues et Antoine Combes, il devient le nouveau totem d'immunité du Racing s'il ne débriefe que les matchs à domicile. Damien d'Hervé Duven est là également. Salut Damien.
Salut Valentin, bonsoir à toutes et tous.
Il commence à regretter la période Casanova au Racing car on perdait mais on voyait plus de buts à Bollard. C'est Thomas Faubert qui sera notre troisième chroniqueur. Salut Thomas.
Salut Valentin, bonsoir à tous.
Enfin, il a tenté ce week-end de devenir le sosie officiel vocal de Lacazette. Ce qu'il a oublié, c'est que le joueur lyonnais en a fini avec ses soucis depuis son opération. C'est Antoine qui clôture les présentations. Salut Antoine.
Salut Val et bonsoir à tous ceux qui comment ont passé leur week-end sur le podium, à se casser la voix.
Allez, réagissez dans les différents chats de l'émission. Il est temps de siffler la première mi-temps. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Culture Sans Yor sur les réseaux, sur Twitter, Facebook et Instagram. Et puis rendez-vous sur notre site web culturesansyor.com pour y trouver plein d'articles sur le club. La dernière fois, c'était en 1998, année du titre. Le Racing a remporté samedi son 6e match de suite à domicile avec 24 points en 11 journées. Le Racing fait aussi bien que 2001-2002, année du presque titre. Les feux sont au vert après ce nouveau succès face à Montpellier samedi. Et pourtant, on a quand même ce sentiment que les Lensois sont en manque d'inspiration en ce moment, en tout cas moins spectaculaire, mais c'est quand même compensé par une défense solide. Je vais vous poser une première question pour commencer ce débrief, messieurs. Premier tour de table, est-ce que vous qualifieriez la victoire de samedi de laborieuse ? Je vais commencer avec Thomas Fauvergue.
Oui, laborieuse, compliquée, étriquée, timide. Il y a plein de mots qui me venaient à l'esprit, mais... Ouais, laborieuse, forcément, quand on voit la première mi-temps. Et heureusement qu'on a changé un peu d'état d'esprit en deuxième.
Damien, est-ce que tu trouves que ça a été laborieux ?
Alors, moi, je dirais pas laborieux. Alors oui, techniquement, la première mi-temps a été très, très compliquée avec beaucoup de ratés. Mais quand on regarde le nombre d'occasions franches qu'on a entre les trois de Pereira da Costa, de Sotoka aussi, qui en a une ou deux, Openda qui rate un face-à-face, enfin, franchement, on peut même sortir du match avec 3-4 buts. Et donc non, je dirais pas laborieux, mais en plus de ça, on est solide. Donc voilà, plutôt rassuré même.
Greg, est-ce que c'était laborieux pour toi ?
Oui, techniquement, ça l'était vraiment. Ça manquait d'inspiration, mais comme l'a dit Damien, elle est laborieuse et méritée. Voilà, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut l'avoir, c'est-à-dire que sur l'ensemble du match, alors attention parce qu'il y a eu beaucoup de, on en reparlera après, mais il y a beaucoup d'actions aussi qui viennent à 1-0, évidemment Montpellier n'est plus dans le même temps de jeu, notamment les trois évidemment de David Pereira da Costa, mais à partir de la 35e minute, on a senti que l'on se montait un peu en puissance, entre guillemets, prenait l'ascendant, mais ça manquait de justesse pour faire la décision un peu plus tôt certainement.
Allez, je termine autour de table avec Antoine, est-ce que pour toi c'était laborieux comme victoire ?
Non, je ne dirais pas laborieux. Je dirais que c'est une victoire qui a mis du temps à venir. Mais j'ai trouvé que même si ils ont loin d'avoir été géniaux sur la première mi-temps, il y a eu une forme de patience et de solidité qui m'a un peu, comme Damien, m'a un peu rassuré sur cette capacité qu'on aura à justement maintenant approcher ces matchs face à des blocs médians ou des blocs bas, resserrés.
En tout cas, quand on regarde les stats de ce match, alors il ne faut pas se baser que sur les stats évidemment, mais quand on les regarde, quasiment 70% de possession, 17 tirs, des grosses opportunités en deuxième mi-temps, comme vous l'avez dit, un peu près tout le monde, un expected goal qui se rapproche des deux, c'est pas les stades d'un mauvais match, Damien, finalement. Comment t'expliques un petit peu ce sentiment qu'on a de, je sais pas, de peut-être d'un manque de rythme, d'un manque de peut-être qu'on a été habitué à du spectaculaire et que finalement maintenant le Racing a peut-être d'autres ambitions pendant ces matchs.
Ouais, alors après, je pense qu'on était encore peut-être un peu fragile mentalement suite à la défaite dans le derby. Je pense qu'il y avait peut-être une appréhension de la part des joueurs dans la suite de ce match à domicile. Ça a pu jouer dans certaines têtes. Enfin, là, je pense qu'on peut tous penser en premier lieu à Frankowski qui est passé, mais complètement, c'est même plus complètement à côté. Il était très loin de ses pompes en première mi-temps.
D'ailleurs, on a vu Cabot s'entraîner très vite.
Oui, à la 25e minute, il était déjà en train de s'échauffer. Donc bon, mais après ça peut justement avoir un impact aussi sur l'aspect psychologique d'un joueur, de se dire « Ouh là là, celui qui peut me suppléer est déjà en train de s'échauffer, je suis en train de merder ». Ça peut aussi l'aider justement à se reconcentrer dans son match, parce que bon, clairement, il a raté des contrôles faciles. Même Greg ne les raterait pas, très clairement.
Il a raté une touche aussi. Hein, quand même.
Et il a raté une touche.
On le notera tout à l'heure, Frankowski. Mais
il n'avait pas beaucoup de vivacité. Hein. Même Greg, je trouve qu'il a...
C'est surtout ça, moi, qui m'a marqué. C'est que d'habitude, on le voit quand même plonger dans son couloir. Et on avait l'impression qu'il n'y arrivait pas. Quoi.
Bah, oui, c'est exactement ça. Alors après, c'est pareil. Machado, en première mi-temps, il n'était pas non plus ultra percutant, ultra tranchant. Enfin, un peu comme toute l'équipe, finalement. Donc oui, peut-être un peu moins spectaculaire. Mais bon, mine de rien, on sort avec un troisième clean sheet à domicile. On peut pas dire qu'on a été fortement menacé. Donc bon, voilà, c'est, comme tu l'as dit, on a 70% de possession. Moins flamboyant, mais en même temps, on pose le jeu, on essaye justement. Enfin, c'est pas comme si on était complètement à côté de nos pompes. Non, on essaye de rester dans le projet de jeu instauré par Frank Hayes et son staff. Et voilà, bon, après, on est moins flamboyant, l'image de Seko Fofana également. Mais, ouais, mais finalement, aussi, hein. On a les trois points. Bon, c'est là l'essentiel, mais on peut dire qu'on a une marge de progression si on met toutes les occasions qu'on a eues au fond. On ne débrieferait pas de cette manière ce soir, en fait, ouais. Si on était à deux ou trois.
Oui,
buts.
Oui, c'est vrai. Mais on a l'impression, en tout cas, c'est un sentiment depuis le début de saison, Antoine, que peut-être le Racing essaie de mieux maîtriser, en tout cas, ces moments d'attaque, ces moments de possession par rapport aux deux premières saisons où on avait le sentiment que les possessions étaient plus rapides, on allait plus vite vers l'avant. Aujourd'hui, on a le sentiment que le Racing essaie de plus poser son jeu, plus lentement, faire des passes, etc. Est-ce que c'est ton sentiment à toi aussi?
Non, je sais pas si c'est exactement propre à cette saison ou si c'est une passade en fait depuis le match contre Lorient, parce qu'il faut se rappeler le match de Lorient, hein, c'est un festival, un feu d'artifice de la première à la dernière minute quasiment. Les matchs qui ont précédé le match de Lorient aussi, il y avait beaucoup d'intensité. Enfin, c'était très, il y avait beaucoup d'intensité. Enfin, dès les premières minutes des rencontres. Non, là, je pense qu'il y a, un petit passage là où je ne sais même pas si c'est véritablement un manque d'intensité ou si c'est tout simplement un manque de réalisme devant le but qui est assez criant. Voilà, je pense qu'il y a, un temps relativement faible dans le jeu lensois offensivement, mais il y a un temps réellement fort défensivement. Et au final, moi, ce que je préfère retenir dans tout ça, c'est qu'effectivement, on a des joueurs qui sont un peu en manque de réussite en ce moment. Globalement à peu près tout le monde, hein, puisqu'on a marqué 3 buts sur les 5 derniers matchs, donc c'est que par la force des choses, je crois qu'on a le pire bilan sur les 5 derniers matchs de Ligue 1 en termes de buts marqués. Par contre,
il y a Reims derrière nous,
bon voilà, Reims qui a inventé le football à 10 d'ailleurs, donc bon, je ne sais pas si c'est vraiment un élément de comparaison pertinent, mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'arrive pas à marquer. Mais il y a le relais de la défense, donc moi je préfère, encore une fois, hein, les gens s'amuseront à me traiter d'optimiste et un peu trop optimiste, mais en tout cas j'ai l'impression qu'aujourd'hui la grande force du RC Lens, c'est que même quand il y a un peu moins de jus devant, et ben en fait on arrive à garder une forme de cohésion et de solidité qui fait qu'on arrive quand même à renverser des fois les rapports de force sur les fins de match.
Ouais. Toi aussi, tu as ce sentiment, Greg, qu'il y a un petit peu un manque de rythme. Alors, on a l'impression que peut-être que c'est un manque de physique après ce début de saison assez incroyable. Alors, Brice Samba a dit que sur Canal+, à la fin du match, que non, les datas physiques étaient bonnes, que c'était pas ça. Quel est ton sentiment, toi? Comment tu peux expliquer cet allant un petit peu plus... j'ai pas envie de dire négatif, hein, mais c'est vrai que par rapport au début de saison, on a l'impression que c'est un peu plus compliqué dans le jeu pour le Racing. Est-ce que toi, tu as ce sentiment-là ou pas?
Alors, c'était pas vrai, jusque faut ramener à ça quand même. Pour moi, c'est surtout sur les deux derniers matchs et plus spécifiquement sur les trois dernières mi-temps. Parce que rappelons quand même que Lens avait fait un match très très intéressant contre Lyon dans l'intensité, dans cette capacité à y croire jusqu'au bout, à dominer Lyon quasiment du début à la fin. Il y a eu une première mi-temps à Villeneuve-d'Ascq qui était somme toute hyper cohérente quand même, où Lens s'en sort pas très bien. Et une deuxième mi-temps où ils sont complètement passés à côté. Mais je pense surtout c'est que. En termes d'animation de jeu, on va parler évidemment de Seko Fofana, par exemple, parce qu'aujourd'hui, c'est un animateur de jeu, c'est un joueur impactant. Je ne pense pas que ce soit depuis sa prolongation exactement qu'il soit moins bon. Je pense surtout que c'est depuis sa blessure, parce qu'on schématise toujours en disant que c'est au moment de sa prolongation, mais il était à ce moment-là blessé, il n'est pas revenu à maximum, c'est une évidence. Donc, comme techniquement, Seko Fofana au cœur du jeu est moins bon, déjà, c'est une première chose. David Pereira da Costa, j'étais moi personnellement plutôt content de le voir sur le banc. En tout cas, je trouvais ça assez juste par rapport à la concurrence que veut mettre en place Franquès, parce que je trouve que David Pereira da Costa, il est un peu en dessous, il stagne un peu, voire il est moins influent et c'est lui qui amène cette animation là normalement, qui doit tourner autour et trouver les angles de passe. Il s'est pas passé grand chose sur les côtés jusqu'au temps que Jimmy Cabot entre en jeu aussi. Donc je pense que c'est vraiment une animation générale qui est moins bonne. Et parlons pas de Loïs Openda, qui s'est fait tenser d'ailleurs par un peu en conférence de presse par Franck Haise.
Openda et Pereira, ouais.
Voilà, et clairement...
À eux de faire mieux, en gros.
Le début de saison, chaque appel de balle de Loïs Openda, ça crée des vrais dégâts dans les défenses adverses, et donc des espaces, et donc un allant. Là, on trouve que ils sont peut-être un peu à contre-temps. D'ailleurs, je trouve qu'il redescend un peu plus pour jouer un peu en soutien, parce que peut-être il se sent pas très bien, donc il a besoin de se rassurer aussi, de toucher des ballons, alors que c'est un joueur de profondeur. Donc tout ça mis bout à bout, et ben oui, heureusement quand même que défensivement c'est encore monté d'un cran, et que finalement l'absence de Jonathan Gradi, elle est plutôt bien compensée pour l'instant, parce que sinon il pourrait y avoir des dégâts inverses. Pour l'instant ça pose pas de problème, mais moi je trouve effectivement que depuis trois mi-temps surtout, cette équipe elle est moins inspirée, tout simplement.
Mais on parlera dans un instant du fait que la défense compense peut-être, ce manque offensif des derniers matchs. Difficulté offensive, 4 buts sur les 6 derniers matchs pour le Racing, Thomas. On a l'impression que le Racing est en manque de réussite. Hein, quand on voit le face-à-face d'Openda face à Omlin, normalement, il la met, celle-ci. Peut-être que dans les têtes aussi, il se pose plus de questions de ce manque de réussite. Mais malgré tout, Lens, dans ces moments plus compliqués, prend encore des points et même beaucoup de points, Thomas. Et contrairement aux saisons précédentes, si on se dit que Lens est peut-être dans un creux, ça montre une évolution encore par rapport aux saisons précédentes.
Ça, je pense qu'on est en constante progression grâce au staff et l'expérience des joueurs. On le dit toujours en rigolant, mais des matchs comme ça, l'année dernière, on les perdait ou on faisait match nul. Et en marquant pas beaucoup de buts, on prend quand même des points. Au niveau comptable, on est quand même pas mal. Et s'il fallait gagner 38 matchs 1-0 en étant pas flamboyant, forcément on comprend. On veut du beau jeu, mais on veut avant tout les 3 points. Hein. Forcément, c'est ça qui va faire avancer. Il n'y a pas de...
Tu serais champion comme le Los de Galtier, en fait.
Ouais, voilà, et moi, ça me va très bien.
Non, mais évidemment qu'on veut tous que le Racing gagne des matchs.
Et forcément, on marque moins, donc il faut être efficace derrière. Et Medina Danso a encore été énorme ce week-end, hein, s'oublie à Inara, mais...
Mais d'ailleurs, Danso, c'est celui aujourd'hui qui amène le plus d'impulsion offensive des fois sur ses prises de balle.
Il a pris le relais de Grady, ouais.
Oui, et c'est vrai que c'est questionnant quand même, parce qu'on a l'impression que quand Danso touche le ballon et qu'il percute, il peut se passer peut-être des fois plus de choses que sur certains joueurs qui sont normalement amenés à faire des vraies différences. Et puis bon, juste une chose, moi je trouve qu'Abdoul Samed, notamment dans le derby à Lille, a été un cran ou deux crans en dessous, et ça s'est vu tout de suite simplement aussi, hein, parce que c'est quand même le régulateur, etc. Donc je pense qu'il y a un ensemble de petits facteurs qui ne sont pas si graves que ça, mais cumulés les uns aux autres font une petite différence quand même dans l'animation.
Dansou aussi, on le notera tout à l'heure parce que je l'ai choisi parmi les quatre. Hein, il m'a encore impressionné défensivement. Défensivement, le Racing tient le cap et c'est peut-être ça qui nous garde la tête hors de l'eau finalement, Damien aussi. Sur les cinq derniers matchs, 4 clean sheets pour le Racing, c'est des stats qu'on a quasiment jamais vu sur les dernières années. C'est la défense qui maintient le cap. Finalement, Massadio Aïdara, bon, si on met à part sa prise de judo sur le derby, fait le boulot. Et puis le Racing a récupéré énormément. La défense du Racing a récupéré plus de 40 ballons sur le match face à Montpellier. Dansou Medina, les deux sont dans le top 3 des distances balle au pied vers le but. Ça, c'est aussi une stat importante hein, de la Ligue 1. Est-ce que c'est pas finalement la défense qui maintient le cap du Racing aujourd'hui hein?
Si, complètement. Déjà, je pense que quand on est attaquant, c'est quand même rassurant de savoir que derrière, ça tient la baraque et ça tient bien la route. Mais surtout, quelque chose qu'on voyait au cours des deux précédentes saisons, et là, je vais rejoindre ce que disait Thomas, c'est-à-dire que il y a beaucoup moins d'erreurs individuelles de la part des joueurs, que ce soit Danso, Medina ou même au niveau du milieu de terrain. On a beaucoup moins d'erreurs individuelles, voire presque plus du tout. Enfin là, de mémoire, la dernière, du coup, c'est à Reims, avec la perte de balle de Sotoka un peu bêtement au milieu de terrain, mais sinon, on a très peu d'erreurs individuelles, en fait. Donc, est-ce que l'expérience ne vient pas de là également? Est-ce que les joueurs n'ont pas pris conscience que par moment, il y avait d'énormes prises de risques? Bon, ils en prennent toujours beaucoup, mais est-ce que, voilà, à un moment donné, ils se disent pas, je vais plutôt dégager? On voit Danso, au cours des derniers matchs, qui n'hésite plus à mettre les parpaings loin devant plutôt que d'essayer de relancer proprement, justement, dans des situations qui sont tendues avec un pressing adverse très important à proximité de la surface de réparation. Et puis, bon, même peut-être au niveau du goal, même si on ne peut pas dire que Samba ait forcément énormément de choses à faire au cours des derniers matchs, mais moi, je pense que ça viendrait plutôt de là, cette solidité également défensive, parce qu'on a toujours été plus ou moins solide, même si on se faisait régulièrement transpercer, hein, mais ça venait régulièrement aussi de pertes de balles un peu bêtes ou d'erreurs individuelles.
Ouais. Antoine, tu voulais réagir et je vais te relancer, notamment aussi en parlant des saisons précédentes et de la maturité qu'a pris cette équipe. On se souvient que quand Lens avait un creux hein, la saison dernière, même offensivement, hein, la défense n'était pas encore assez solide pour tenir et on perdait ces matchs peut-être un peu capitaux qui nous ont fait rater deux fois la Coupe d'Europe à quelques points. Cette saison, on a l'impression que peut-être cette maturité est là et que c'est peut-être ces points-là à la fin qui pourront peut-être nous amener la Coupe d'Europe aussi.
Déjà, je voulais souligner aussi un point que j'ai trouvé intéressant pendant le match, c'est la compacité en fait entre les lignes. Donc, en fait, tu continues de jouer haut avec de l'ambition. Tu as souvent tes trois défenseurs qui se retrouvent dans le camp adverse ou voire à la limite de la ligne médiane. Et en fait, tu remarques très vite cette compacité qui fait que tu récupères quasiment tous les seconds ballons. Et moi, c'est ce qui m'a marqué contre Montpellier. C'est pour ça que je trouve que, effectivement, ça n'a pas été un match très beau à voir, parce que si l'adversaire était vraiment d'une très grande faiblesse, hein, je reviens toujours à ce fameux rapport de force, mais là, clairement, sur tous les ballons perdus par les Montpelliérains, enfin, sur tous les ballons récupérés par les Montpelliérains, on était sur une relance ou deux, et tout de suite, il y avait un Lensois qui coupait les trajectoires et qui récupérait le ballon et qui permettait de remettre tout de suite de la pression. Moi, j'ai noté plusieurs fois des actions où en revisionnant le match rapidement aujourd'hui, je voyais des joueurs montpelliérains quasiment célébrer des corners ou des actions avortées par leurs défenseurs au milieu de terrain. Ça prouvait aussi que l'équipe montpelliéraine est clairement venue dans un rôle d'équipe qui allait subir, qui allait prendre la foudre. Et je pense qu'ils étaient véritablement dans cette volonté de préserver le match nul et de jouer en fait sur leurs trois flèches, hein, parce qu'il ne faut pas oublier non plus, et c'est peut-être aussi pour ça que le RC Lens a aussi été prudent en début de match, c'est que tu avais quand même Savanier qui est un des meilleurs passeurs de Ligue 1, et tu avais quand même devant
Matuidi,
Nordin et Wai, qui sont quand même des joueurs qui prennent très très bien la profondeur. Et moi j'ai trouvé justement qu'on a réussi à leur imposer justement cette compacité au milieu de terrain qui a fait qu'on a récupéré beaucoup de ballons et qu'on a finalement annihilé tout leur supposé plan en fait qui était de nous contrer et très vite nous prendre dans le dos. Après, effectivement, je rejoins complètement ce qu'a dit Damien et ce qu'avait introduit Thomas, c'est qu'il n'y a plus du tout d'erreur, quasiment plus du tout d'erreur individuelle, que ce soit avec ou sans le ballon. On voit un Danso qui compense parfaitement bien les quelques recherches de profondeur de l'adversaire, un Medina qui a encore été le joueur qui a touché le plus de ballons côté Lensois et qui, à chaque fois, relance très bien et très efficacement, et puis un Haïdara. Moi, je ne veux vraiment pas qu'on banalise les performances de Haïdara qui arrive sur un poste nouveau pour lui et qui a un bilan collectif, mais il fait partie de cette défense exceptionnelle en l'absence de Joe Hardy.
Ouais. C'est vrai que ça a noté quand même. Hein. On se posait la question de savoir s'il fallait remplacer Jonathan Grady hein, après sa blessure. Bah, finalement, on se rend compte que Haïdara, dans un poste, un côté et un poste qui n'est pas le sien naturellement, fait quand même le boulot. Je voulais qu'on parle du banc, Greg, quand même, parce que le banc a fait la différence hein, sur ce match de Montpellier. La rentrée de David Pereira da Costa, même s'il a beaucoup croqué, a fait du bien. La rentrée de Wesley Saïb, hein, le Super Sub, qui ont remplacé respectivement Alexis Claude Maurice et Louis Openda. Ça fait du bien aussi d'avoir un banc décisif. Hein. Ça, c'est ce qui manquait aussi avant. Hein.
Et puis clairement, l'entrée de Jimmy Cabot, on parlera évidemment après de la mauvaise nouvelle qui est tombée aujourd'hui, mais l'entrée de Jimmy Cabot, elle a quand même amené de la variété dans les déplacements, beaucoup d'impact. Il est capable de partir sur le côté, de revenir, de rentrer.
Ce que je trouvais que Frankowski ne faisait pas, c'est il y allait, quoi. C'est ça, en fait, tout simplement.
Oui, et puis je pense que clairement, c'est un joueur qui est plus à l'aise dans les derniers mètres que dans les 20 derniers mètres que les Premiswaf Frankowski, qui est un peu prévisible parfois, qui peut être décisif, avoir des aspirations aussi. C'est pas ce que je dis simplement que Cabot, c'est un vrai joueur de rupture, vraiment dans ce qu'on appelle cette capacité à casser les lignes. En plus, il lève beaucoup la tête dans les derniers mètres et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est quelqu'un qui va très vite, mais en même temps reste hyper lucide. Donc oui, et de manière générale, le banc a été bon. Et ce qui n'est pas une bonne nouvelle, par exemple, pour Alexis Claude Maurice, par exemple, qui avait sa chance et que j'ai trouvé, moi, j'ai l'impression que je ne sais pas si... Comment il faut utiliser, alors je ne suis pas un grand spécialiste technico-tactique du football, mais clairement, Alexis Claude Maurice, je ne sais pas trop où il faut le mettre. Effectivement, c'est plutôt un joueur plutôt juste derrière les attaquants, mais moi, il ne m'a pas montré, en tout cas samedi, qu'il était capable de saisir sa chance et de prendre
il
plus d'ampleur.
Il a fait deux, trois gestes en première mi-temps qui étaient intéressants, mais il s'est très vite effacé, ouais.
Oui, et puis je sais pas, même dans son langage corporel, je sais pas. Alors après, ce n'est que du langage corporel, hein, je sais pas. Je trouvais que il manquait quelque chose pour quelqu'un qui avait sa première vraie chance depuis qu'il est arrivé. Donc voilà, Onana, ça amène aussi quelque chose. Je l'ai trouvé intéressant. Onana, je me souviens qu'il prend un petit pont à un moment donné dans une période un peu en fin de match. Et il a un super petit pont, je ne sais plus qui lui met, et il se retourne et il va arracher le ballon pour le récupérer. Et ça, c'est déjà ce que je trouve très intéressant dans une période où voilà, Lens était plutôt dans l'optique évidemment de garder ce score. Et quand vous faites quand un mec rentre comme ça, prend un petit pont quasiment sur son premier ballon, rentre dans un match froid et puis qui se pose pas de questions, qui revient, globalement le banc a fait le taf et c'est pas un hasard si c'est à ce moment-là que le but victorieux est arrivé.
Ouais. Tout à fait, de Wesley Saïd, le super sub, qui a remplacé Louis Openda, que j'ai trouvé assez timide encore, hein, comme au derby face au LOSC. Thomas, Jimmy Cabot, on a appris la nouvelle aujourd'hui, hein, on l'a vu en fin de match, stand de douleur un peu tout seul, hein, et on a appris qu'il avait une rupture du ligament croisé du genou, ça veut dire 6 à 9 mois d'indisponibilité, c'est peut-être la grosse file hein, pour le Racing.
Oui, mais comme on l'a dit pour Grady, comme on l'a dit pour Ghisolfi, on a l'impression que ce club a quand même des ressources inespérées ou inconnues pour nous. Alors là, peut-être que ça va encore compliquer la tâche, hein, on est d'accord, mais Francaise va peut-être nous retrouver un truc. Haïdara à droite au retour de Grady.
Ouais.
Haïdara va finir... sur les places à côté de la ligne de touche à force de partir vers la droite là. Mais ouais, je pense que ce serait prématuré de prendre un joker d'ici la Coupe du monde et de prendre son temps et ça va être peut-être la première vraie grosse décision de Grégory Thiel tout seul, pas tout seul parce qu'il sera jamais tout seul, mais non. En tant que directeur technique.
Ouais. C'est dur, hein, Damien, quand même, pour Jimmy Cabot, qui vraiment revenait vraiment à son meilleur niveau, qui était assez impressionnant sur le côté droit du Racing. Ça fait mal pour lui, ça fait mal pour le Racing aussi. Comment un petit peu tu juges, toi, cette blessure et comment tu vois la suite?
Ouais, c'est clair, il revenait déjà de blessure, hein, puisqu'il était arrivé blessé, et il commençait vraiment à retrouver de l'allant physique, mais ouais, vraiment, enfin déjà, on va lui souhaiter un prompt rétablissement, parce que se remettre d'une telle blessure, ça va vraiment pas être évident pour lui, mais ensuite, pour la suite, bon, j'imagine qu'on verra automatiquement Frankowski titulaire au moins jusqu'à la trêve, mais est-ce qu'on recrutera derrière, j'ai envie de dire, le pauvre, enfin le pauvre non, mais Brian Pereira, qui aurait peut-être pu avoir sa chance s'il était resté un petit peu, s'il avait pris son temps, il aurait pu être une bonne doublure. Mais bon, tant pis pour lui, mais j'imagine que là, on va attendre tranquillement le mois de janvier et qu'on va regarder un peu ce qui se passe sur le marché, un joueur à prêter. Enfin là, je pense notamment à Frédéric Gilbert, par exemple, qui a un peu d'expérience.
Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, on sait que le Racing ne veut pas se précipiter. On l'a vu avec Aïdara notamment. Donc, à voir pour la suite. Antoine, pour finir sur Jimmy Cabot, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette blessure? Est-ce que ça peut être préjudiciable quand on voit le niveau de Frankowski en ce moment, hein, sans lui jeter la pierre, mais il est pas au top de sa forme. Est-ce que ça peut pas être pénalisant pour le Racing?
Bah, ça le sera forcément. Moi, je pense surtout à l'homme, Jimmy Cabot, avant de penser au groupe. Moi, je pense que c'est terrible pour Jimmy Cabot, qui, comme tu l'as dit, revenait, était hyper motivé. Tu sentais qu'il y avait. En plus, tu sens que c'est un vrai bon mec qui parle super bien en conférence de presse. Hein, un joueur qui. Un profil qu'on a peu aussi, c'est un profil très dribbleur. Et comme disait Greg tout à l'heure, quand il est rentré, on l'a tout de suite vu, hein, il amène autre chose. Dans les petits espaces, il est capable d'éliminer, etc. C'est dur pour le groupe, forcément, parce que, bah, au final, tu perds un joueur sur un poste clé qui est le piston dans la tactique du RC Lens. Donc, forcément, là, tu te retrouves avec Frankowski en seul vrai choix en piston droit. Après, comme l'a dit Thomas, Francaise est peut-être capable de nous inventer quelque chose avec les joueurs qu'il a à sa disposition, mais globalement, oui, c'est terrible pour l'homme, c'est un coup dur pour le groupe. Et maintenant, ça va être à Frankowski de faire taire les critiques.
Ouais, et dès samedi.
A commencé par samedi à Marseille, où il avait joué l'année dernière.
On s'en souvient.
Et il avait mis un but faux pied gauche en pleine lucarne.
Fantastique, ouais.
Donc, Franek, si tu m'entends.
On a encore Facundo Medina pour le match face à Marseille, mais Farid dans le chat nous dit qu'il sera suspendu face à Toulouse, Facundo Medina, après son carton jaune pris dans le match face à Montpellier en début de match. D'ailleurs, j'ai cru qu'il allait un peu s'énerver, le Facundo, qu'il allait pas finir le match, et finalement,
bah là, faudrait pas que Danso ait la bonne idée de prendre un rouge à Marseille, quoi.
Ouais, parce que là, ça va commencer à devenir compliqué quand même. Hein.
Parce que là, c'est Monsieur Bricolage après. Hein.
En termes de défense, après, bon, pourquoi pas essayer d'inclure aussi des jeunes de la N3, hein, finalement, qui sont pas ridicules. On en parlera dans un instant dans l'actu. On va noter des joueurs, messieurs. Je vous ai sélectionné 4 joueurs, notamment Seko Fofana, que je vais donner à Greg Lallemand, parce que on en parlait un petit peu, hein, tout à l'heure. On a encore du mal à retrouver le Seko qu'on connaît suite à sa blessure notamment. Quelle note tu lui donnes, toi, Greg?
Bah, moi, je mettrais 5 pour la seule bonne raison qu'il n'a pas non plus été dangereux dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait le job, qui n'a pas été, on lui disait tout à l'heure, il n'y a pas eu d'énormes, finalement, erreurs individuelles, on va dire, impactantes pour le RC Lens défensivement.
Il est extrêmement hésitant sur énormément de phases.
Oui. Il est clairement en manque de confiance, c'est-à-dire que là où il avait une spontanéité dès sa prise de balle il y a quelques semaines avant sa blessure, je l'ai dit. Après, Seko Fofana, je crois que c'est dans l'essence même de son jeu, c'est-à-dire que même les matchs dont on se souvient, on parle par exemple du match de Rennes où il a décanté le match à la fin du mois d'août, il sort cet éclair de génie à la 65e ou 70e. Et jusque-là, il n'était pas non plus extraordinaire. C'est pour ça que je pense qu'il faut le laisser sur le terrain, ce mec, parce qu'on sait très bien qu'il peut tout décanter et que le moment où il va avoir cet enchaînement de 1, 2, 3 bons gestes, derrière, ça peut faire mal. Donc voilà, maintenant, il est clairement hésitant, il est clairement Il est clairement techniquement en dessous, même sur des passes faciles. Il essaie de se sécuriser un peu trop. Et je pense que quand Franquez disait, je crois qu'il a dit à peu près ça en conférence de presse, où il émettait l'idée que l'équipe n'avait pas pris trop de risques finalement, essayer d'assurer toutes ses passes, etc. C'est qu'au Fofana, c'est un peu ça. On attend de lui qu'il percute. Et enfin, je finirai là-dessus. Je pense que par contre, un match un samedi soir au Vélodrome, un match du podium, c'est typiquement le genre de match où c'est Fofana, il peut. C'est un match fait pour ce genre de mec, quoi, pour les super-héros. Donc finalement, je pense que c'est bien que ce soit un match comme ça qui arrive samedi, et on retrouvera peut-être ces Fofana qu'on a pu connaître dès samedi au Vélodrome.
Ouais, ouais. Thomas, on en a pas mal parlé hein, déjà dans le débrief, mais je l'avais choisi à juste titre, Primoz Frankowski hein, pour son match face à Montpellier. Ta note pour le Polonais?
4,5. La moyenne aurait été compliquée, il a vraiment été à côté de ses pompes. Après, on prend pas de but, hein, donc ça veut dire que la défense fait son job, et toute la défense, même s'il a fait quelques erreurs qui ont été rattrapées derrière par Aïdara ou même Danso, on prend pas de but. Après, offensivement, ça a été compliqué, et il souffre forcément de la comparaison avec l'entrée de Jimmy Cabot qui se bat comme un beau job sur le côté droit, sur le but, même s'il loupe sa passe derrière, ça vient de sa combativité. Donc, 4,5 pour pas être trop vache.
Ouais. Damien, je t'ai choisi, j'avais choisi, hein, puisque c'est encore le boss de la défense, et j'aime bien qu'on en parle. Kevin Danso, évidemment, hein, il faut le noter, Kevin Danso sur ce match-là.
Ouais, bon, moi je lui mettrais quand même une sacrée belle note, je lui mettrais quand même un bon 8, parce que franchement, ouais, il a été encore une fois énorme, c'est vraiment le rock. Comme le disait Antoine tout à l'heure, lorsqu'il y avait ne serait-ce qu'une balle qui passait dans le dos, soit d'Aïdara ou soit de Medina, il était là pour compenser. Comme le disait Greg, il s'est transpercé et il est capable de quelques fulgurances et de déstabiliser ne serait-ce qu'un milieu de terrain et voire une défense. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose, un gros quelque chose avec Kevin Danso cette année, et j'espère que ça continuera, parce que ça augure vraiment de très très belles choses là.
Ouais, juste sur Kevin Danso, je voulais juste te dire, j'ai vu un truc, je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout début de match, sur les relances en 6 mètres, il était milieu de terrain, c'est-à-dire qu'il y avait Medina et Aïdara qui étaient très bas, et lui, il était à la hauteur du milieu de terrain. Alors, j'avais jamais vu ça, moi. C'est-à-dire que...
Bah, ça m'a fait penser à Fortes face à Marseille il y a 2 ans.
Il y a 2 ans. On l'avait déjà vu, ouais.
Ah, autant pour moi. Bah, écoutez,
le central qui rentre en 6, ouais.
Ouais.
Et ça m'a vraiment... c'était assez du stade, ça faisait une drôle de configuration. Voilà.
Allez, on va terminer avec Salis Abdoul Samed pour Antoine.
Ah bah, Salis Abdoul Samed, c'est... Et que dire de ce joueur, il est juste incroyable. C'est la troisième fois qu'il est dans l'équipe type, l'équipe. Ouais. Il est justement, tout à l'heure, on parlait un petit peu de Fofana qui était en dedans, mais hormis le match contre à Lille il y a 10 jours, il fait un début de saison absolument incroyable. Il arrive, enfin, il nous a fait complètement oublier Cheikh Doucouré. Hein. Ouais, Doucouré sera toujours dans notre cœur, mais clairement, on n'y pense plus du tout.
À l'instant T, ouais.
On n'y pense plus du tout. Et en plus de ça, il fait un petit peu d'ombre, même, je trouve, à Sekou Fofana, des fois, dans ce registre box-to-box. J'en prends preuve. Là, j'ai revisionné le match rapidement tout à l'heure. Et mine de rien, à la 30e minute, il fait une passe extraordinaire dans la profondeur pour Openda, ouais, entre deux joueurs. Openda qui fait un mauvais contrôle. Mais il est aussi capable d'être hyper précis dans le dernier geste ou dans l'avant-dernier geste. Et c'est un joueur extraordinaire. Moi, je lui mets un bon 8 aussi, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment l'atout du milieu de terrain du Racing Club de Lens.
Allez, je laisse une seule chance à l'un d'entre vous de donner un carton rouge ou un carton vert. Manifestez-vous, s'il vous plaît. C'est parti. Eh bien, personne. Personne ne veut me parler de l'arbitrage.
Non, il y a des cartons rouges.
Personne ne veut me parler de l'arbitrage, quoi. C'est incroyable quand même.
Non, alors l'arbitrage, le fait qu'il y ait eu très peu de considération de l'arbitre pour la blessure de Cabot, bien sûr que c'est quelque chose, c'est un manque de pédagogie, et c'est un peu le mal profond de l'arbitrage français.
Et c'était le même pour la faute sur Jonathan Grady face à Troyes. Hein.
Voilà, bon, après, des dérives encore une fois sur le fait qu'on s'en prenait maintenant à l'arbitre, parce que bon.
Je ne dis pas qu'il faut s'en prendre, mais il faut
le. Non, bien sûr, mais bon, l'arbitrage, il a été ce qu'il a été. Effectivement, cette dernière minute, on aurait aimé ne pas la vivre comme on l'a vécu. Effectivement, c'est le manque de considération, mais c'est peut-être un peu plus global. Il y a un petit problème de pédagogie ou d'empathie dans l'arbitrage français.
Ouais, alors, et au-delà de ça, on va pas se mentir, moi je l'ai trouvé, encore une fois, on va pas tomber sur l'arbitre, mais le match était haché, mais aussi parce qu'il était. Des fois, je vais pas dire mauvais, mais des fois on avait l'impression qu'il voulait absolument qu'il y ait des temps morts pour lui-même respirer et prendre son temps. Enfin, franchement, c'était hallucinant. Il laissait pas l'avantage, et puis alors d'un coup, la faute est du coup était jouée vite. Ah non, on revient, replacez-vous, messieurs, et tout. Ah, dans un match comme ça, tu as besoin d'un arbitre qui laisse un peu plus jouer, qui sent un peu plus le jeu, et c'était un peu assez catastrophique à ce niveau-là. Au-delà même de cette fin de match un peu particulière dans sa gestion du cacabo.
Ouais. Ouais. On va passer à l'actu avant.
Et attends, juste un petit carton. Un petit carton rouge, celui-là, il va être rapide, mais on a parlé vite fait tout à l'heure. Au TikToker de Bollard. Voilà. chantez quand vous êtes à Bollard, messieurs et mesdames.
On en parlait en off.
Ouais, mais ça mérite quand même un vrai sujet, franchement, Valentin.
Oui, mais c'est pas maintenant. On n'a pas le temps maintenant, parce qu'il est déjà 20h36.
Greg. On va dire que Bollard aura une session de rattrapage.
Alors, l'ambiance était extraordinaire et on reparlera du public fabuleux public de Bollard une autre fois. Là.
Il faudra le dire à Mathieu de nous préparer peut-être un prochain débat, mais là, on a plus le temps. On va passer à l'actu, messieurs, et on va parler des autres équipes du Racing, avec les filles qui sont toujours invaincues en D2 féminine, en déplacement à Orléans. Les Lensoises ont décroché le match nul un but partout après avoir concédé l'ouverture du score. Et bien l'équipe de Sarah Mbarek a été récompensée de ses efforts par une égalisation logique de Pauline Cousin et les Sangyors qui restent en tête au classement à égalité avec le FC Metz de cette deuxième division féminine. Prochain rendez-vous, la réception de la Lanterne Rouge Nantes, ce sera ce week-end. La N3 a également fait match nul ce week-end, un but partout, malgré une large domination du match, avec d'ailleurs le renfort de quelques pros, Ismaël Boura, Poreba notamment. C'était à domicile face à Croix. Le but est signé Yacouba Barry pour le Racing Club de Lens. Les hommes de Vincent Carlier sont toujours en tête du classement de la Nationale 3. Et puis la U19 de Johan Desmonts s'impose 2-0 à Saran et reste à la lutte pour les premières places également. La mi-temps, c'est parti, on va jouer, messieurs, pour le quiz Culture sans Ayor, un quiz qui se joue en équipe de deux, vous le savez maintenant. l'équipe sera Antoine Damien, Greg Thomas Fauvergue. Voilà, c'est parti.
Je vous donne le sort a été fait sous
contrôle de l'huissier de justice, tout à fait.
Je sais que Greg, il rêve d'être avec moi, mais bon, écoute, ça sera pour la prochaine fois.
On verra justement la prochaine fois. Alors, le Racing réalise son meilleur début de saison avant la 12e journée et le match à Marseille ce week-end depuis 2001-2002. Cette saison-là, le Racing, à la 12e journée, se déplace au Stade Rennais pour la 12e journée de D1, Division 1. Je vais vous poser des questions sur ce match Rennes-Lens. Ce sera un quiz de rapidité. Il va donc falloir me donner votre nom avant de répondre que Craig. Je donne la main.
Voilà. Ça a coupé, c'est quelle saison ?
2001-2002. Questionnaire de rapidité, je vous donne la main. Il faut donner votre prénom avant que je vous donne la main. 5 questions, 6 questions même. Mais la première équipe a 3 points, 1 point par bonne réponse. La première équipe a 3 points remporte le quiz. C'est parti. La première question sur ce match Rennes-Lens 2001-2002. Le score du match, tout simplement.
Greg. 2-1,
ça fait un point pour l'équipe Greg Thomas. Deuxième question, quel joueur réalise un doublé ?
Greg. Valérien Ismaël.
C'est une bonne réponse.
Tu vois qu'on aurait eu le temps de parler de l'ambiance.
Vous existez, Antoine et Damien, ou pas ?
Moi, j'ai un problème de voix, c'est pour ça aussi.
Troisième question, dans une défense à 5 qu'avait le Racing ce jour-là, en défenseur axio, nous avions Valérien Ismaël, Adama Koulibaly et
Damien. Walem.
Non.
Antoine. Jimmy Traoré.
Ouais, Jimmy Traoré. Bravo Antoine. Bien joué. Très bonne réponse.
Tu l'avais pas, Greg, hein ?
Non. Franchement, j'ai plus ce que j'allais dire. D'ailleurs, j'allais dire, j'ai plus. Colis. Je voulais dire Ferdinand Colis.
Voilà, il était à droite, Ferdinand Colis. Voilà, bon. Quatrième question, quelle était la particularité du défenseur du Stade Rennais, Julien Escudé ?
Greg.
Antoine.
Greg.
Bah, c'était le frère de Nicolas Escudé, mais je ne sais pas si ça compte.
Bonne réponse. C'est gagné pour l'équipe.
Man, tennisman et qui a gagné la Coupe Davis.
Voilà. Exactement.
Ouais, bah, on peut faire des cuisses tennis.
Et qui a joué à l'Ajax Amsterdam et à Manchester United. Voilà.
Et au CSV aussi. Voilà. Bonne réponse et victoire.
Bravo Thomas.
Sans mesure de l'équipe Greg, Thomas Fauvergue, avec une énorme participation de Thomas Fauvergue.
Au moins, je n'ai pas donné de points à l'équipe adverse.
Thomas, tu peux sortir de chez toi et aller klaxonner dans la rue. Je vais le faire aussi après.
Quand on n'est pas bon en attaque, j'ai bien défendu.
Ah, t'as fait le job. T'as fait le job. Bien.
Bon, rapidement, les deux dernières questions. Quel joueur du 11 Rennais signera plus tard au Racing?
Damien, ouais.
Ouais,
Monterrubio.
Ouais, Monterrubio. Ah. Et enfin, quel ancien Lillois et Nantais remplace Charles-Édouard Coridon à la 63e?
Ah, Thomas.
Sibierski.
Ouais, Sibierski.
Eh ben voilà, c'est toi qui mets le but de la victoire.
C'est ça. C'est
quoi ? Allez, c'est gagné pour Greg et Thomas Fauvergue sur ce quiz de la mi-temps. Deuxième mi-temps qui débute, messieurs, avec le débat de Culture sans Yor. Un débat qui va porter sur la nouvelle structure sportive, en tout cas du club. Après le départ inattendu de Florent Ghisolfi, le RC Lens a annoncé sa nouvelle restructuration sportive. Franck Haise prend du galon, en devenant manager général et par là même prolonge jusqu'en 2027. Deux bonnes nouvelles d'un coup. Et puis Grégory Thil s'est finalement laissé convaincre de rester au club et devient directeur sportif du Racing Club de Lens. On va démarrer ce débat avec Damien. C'est un joli coup d'Arnaud Pouille quand même, d'avoir réussi à réagir comme ça. Est-ce que tu es rassuré toi par cette nouvelle configuration?
On va dire que ça amène déjà de la continuité dans les personnes qui travaillent, c'est-à-dire que Franck Hayes connaît très bien Grégory Thil et inversement, donc ils savent déjà bosser ensemble. C'est pas une nouvelle tête qui va arriver de je ne sais où, qui va devoir s'acclimater à l'ambiance un peu du club du moins. Et c'est-à-dire que Grégory Thil connaît déjà tous les couloirs, connaît tout le monde, donc c'est impeccable. Après, au niveau des fonctions un peu élargies de Franck Hayes, c'est un beau gage de confiance. Est-ce que ça sera vraiment la formule gagnante? Ça, on verra dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais en tous les cas, c'est top de lui laisser vraiment la main sur l'ensemble du sportif. Lui qui connaît déjà très bien la formation, ouais. Il pourra peut-être développer un projet beaucoup plus large que le groupe professionnel. Ça peut au moins permettre de le garder un peu plus dans le circuit sans et hors pendant quelques saisons. Et hâte de voir ce que ça va donner. Et puis bon, pour les joueurs en eux-mêmes, ça augure de la continuité et de la confiance. C'est peut-être la bonne formule, du moins à aujourd'hui. L'avenir le dira.
Rassuré, Greg, par cette continuité finalement au Racing Club de Lens, Franck Hayes qui prend un petit peu plus d'ampleur encore, et puis finalement Grégory Thil qui fait volte-face et qui refuse de rester à Nice, finalement qui résilie le contrat qu'il aurait signé et qui reste au Racing Club de Lens. Est-ce que tu es rassuré? Est-ce que tu trouves que c'est un joli coup de la part d'Arnaud Pouille?
Bien sûr que c'est un joli coup de la part d'Arnaud Pouille, ce qui prouve aussi que souvent je trouve qu'Arnaud Pouille est mis un peu de... peut-être par la force des choses, médiatiquement en retrait de la réussite du RC Lens depuis quelques années, mais il est évidemment celui qui gère les affaires courantes avec beaucoup de sérieux tous les jours. Maintenant, moi j'attends de voir, parce que c'est quand même un poste très particulier. Grégory Thil, il est finalement, même si c'est un football, il y avait un très bon papier de ma collègue Sandrine Arestier aujourd'hui dans La Voix des Sports qui expliquait un peu qui était Grégory Thil et son amour notamment immodéré pour le football depuis toujours, et il a toujours été passionné par ça, c'était très intéressant. Maintenant, c'est quand même quelqu'un qui était à deux doigts de partir. Donc, c'est aussi, il y a deux façons de voir les choses. C'est en même temps, entre guillemets, une prise de guerre, un retour.
Alors, si tu lis l'équipe, apparemment, il serait fait un petit peu monter la tête.
Oui, non, mais je dis pas le contraire, mais ça n'empêche que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, de manière très fugace et brève, avait la tête ailleurs. Donc, il avait peut-être aussi besoin d'un rôle qu'il aura maintenant, c'est-à-dire avec beaucoup plus de responsabilités, un pouvoir de décision plus fort. Par contre, donc on verra évidemment, le premier mercato sera un peu celui, et notamment là on le voit avec les cas Jimmy Cabot, il ne faudra pas se tromper s'il y a un renfort à ce poste-là dans un rôle, dans une équipe qui joue dans ce système, il ne faut pas trop se tromper sur ton piston que tu vas prendre si tu en prends un. Mais par contre, la grande nouvelle, et franchement, je n'avais pas d'infos, mais je pensais que ça pouvait être la meilleure des choses avant même que ça arrive, c'est que Franck Hesse voilà, passe encore un cap dans sa gestion globale. De toute façon, on va dire au jour le jour, c'est Lilian Ali, c'est son staff qui gère aussi les affaires courantes, entre guillemets. Lui, il a déjà une vision un peu panoramique de tout ce qui se passe. Et je pense qu'effectivement, c'est la suite logique. Ça évite à Lens de se précipiter et au contraire de voir l'avenir. Ça rassure tout le monde. C'est 2027, c'est pas demain. Et quand on sait évidemment les sollicitations qui ne doivent pas manquer d'affluer sur la table de Franck Hez, vu sa qualité et le parcours qui est le sien depuis quelques années, ben, je pense que c'est aussi un gros message envoyé par la direction sur la vie, elle ne s'arrête pas, parce que Florent Guy-Sophy, avec l'énorme boulot qu'il a fait, il ne faut quand même pas l'oublier, a décidé de quitter le Racing Club de Lens.
Oui, ça pointe aussi le fait qu'il y a d'autres hommes forts au Racing Club de Lens et qui vont prendre de l'ampleur et que ça va se voir par la suite. Tu trouves que c'est mérité, Thomas, pour Franck Hez, et plus globalement, tu trouves que cette restructuration, elle te rassure ?
Ouais, même si on n'était pas inquiet, on a eu aussi l'impression que le monde s'écroule d'un coup. Gisolfi, la défaite à Lille, c'était une sale semaine quand même. Et pour finir, la bonne nouvelle sort en milieu de semaine et qui nous rassure forcément, parce que ça a une continuité, une stabilité. Qui la paix, je peux pas juger son travail. Par contre, Hez, on le voit depuis 2 saisons et demie et c'est rassurant pour l'avenir. Et le fait de le nommer manager général, ça augure aussi de... un jour, il sera plus coach du Racing Club de Lens et il va pouvoir préparer sereinement un passage de témoin, peut-être avec quelqu'un du staff actuellement, peut-être quelqu'un qui viendra de l'extérieur dans quelques années, mais on le sent investi et d'une mission plus globale. Il l'avait dit au micro d'Alexandre Ruiz, je crois, sur notre émission.
Sur Free Ligue 1, ouais.
Voilà, avant la même l'annonce.
Il a des vocations à autre que être dans une direction, entraîneur dans un club de football à l'avenir.
Arnaud Pouille a dû l'entendre et il l'avait déjà en tête avant, à mon avis. Donc c'est des réflexions qui sont, à mon avis, mûrement réfléchies et faciles pour l'avenir pour Franck Hez.
Ouais. Je finis avec toi, Antoine, sur ce sujet. Qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as découvert l'information? Est-ce que tu trouves que c'était la meilleure solution? Est-ce que tu es rassuré par cette restructuration? Dis-nous un peu comment tu as vécu cette chose.
Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on n'est pas cherché à faire du copier-coller. À un moment, on a vu les rumeurs Lorenzi. Même moi, à un moment, j'avais balancé comme ça. Je pensais à des joueurs, des directeurs sportifs, des recruteurs comme Loïc Désiré de Strasbourg, etc. En fait, moi, ce qui me plaît plus que tout, en fait, dans cette décision, c'est qu'il y a de l'innovation. On va prendre des termes un peu pro, mais il y a de l'agilité. C'est-à-dire qu'on prend une situation, un imprévu, et on arrive à l'intégrer dans une réorganisation. Et sous réserve d'infos contractuelles peut-être de Greg, mais j'ai cru comprendre que les joueurs aussi souhaitaient que Hez prenne plus de poids dans cette organisation-là. Donc, en fait, il y a aussi une écoute.
En tout cas, il leur fallait une réponse rapide et le club a super bien réagi en mettant en plus, encore plus haut, quelqu'un qui a évidemment non seulement l'aura du vestiaire, mais aussi sa confiance absolue au niveau humain notamment. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait, c'est que ça évite et que c'est, je pense, une réponse qui répond en tout cas aux inquiétudes de certains dans le vestiaire, c'est sûr.
Voilà, donc je pense qu'il y a une prise en compte de ce qui était demandé aussi par les parties prenantes du club. Et puis, il y a aussi de faire des choses en fonction des ressources du club financière. C'est-à-dire que c'est difficile aujourd'hui d'aller toquer à la porte d'autres clubs et puis de dire « je veux un profil copier-coller à Gisolfi pour rentrer dans une organisation », sachant qu'on sait très bien qu'un directeur sportif qui aurait eu des prérogatives similaires à celles de Gisolfi aurait très bien pu ne pas matcher avec Hez. Et aussi avec le groupe, parce qu'on oublie aussi qu'un directeur sportif, souvent, il est là pour désamorcer des conflits, travailler sur des négociations. Voilà, il y a tout un côté aussi, comme le dit très bien Greg, et c'est aussi, je pense, pour ça que Hez a été choisi pour ce rôle aux fonctions élargies. C'est que lui a justement, entre guillemets, assis depuis maintenant 3 ans cette légitimité au sein du vestiaire, et qu'il en parle très souvent, et pas que dans l'émission d'Alexandre Ruiz, mais aussi dans énormément d'émissions où il parle beaucoup de ce côté management de l'humain du fait de l'accompagnement des joueurs, de justement tirer le meilleur de ceux qui sont frustrés par leur temps de jeu. On voit aujourd'hui le cas de Haïdara, hein, qui clairement est excellent, alors qu'il a peut-être ruminé pendant très longtemps sa frustration. Donc moi, en fait, ce qui me plaît beaucoup, là, c'est pour revenir à ta question, c'est vraiment le fait que le board soit capable d'innover dans sa réorganisation. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, ça donne véritablement confiance dans l'avenir et dans le fait qu'au RC Lens, il y a des moyens, mais il y a aussi beaucoup...
Et on sait rebondir surtout.
Et je fais super vite et je rebondis sur ce que dit Antoine sur la relation entre le directeur technique et l'entraîneur. Moi, je me souviens évidemment de l'arrivée de Florent Guissolfi en 2019. C'était Philippe Montagnier qui était le coach à l'époque. Mmh. Et ça n'a jamais matché entre eux, vraiment pas. Ça a été l'une des raisons, ils n'avaient pas la même vision. Florent Guissolfi a vite trouvé qu'il fallait jouer à trois derrière, que c'est pour ça qu'il prend Jonathan Grady. Montagnier était beaucoup plus réticent, voulait jouer quatre derrière. Et finalement, ça a été toujours... Ça n'a jamais été vraiment très fluide. Et c'est pour ça que finalement, prendre Grégory Thil, je pense que du coup, ils ont eu le temps de travailler ensemble, d'apprendre à se connaître. Et ils savent qu'ils vont aller dans le même sens. Et ça, c'est super important d'avoir les deux personnes les plus influentes, en tout cas en termes de décisions sportives, qui se connaissent et surtout qui savent dans quelle route ils vont prendre ensemble. Parce que moi, pour l'avoir vécu à l'époque de Montagnier et Sophie, je le redis, on sentait que ce n'était pas toujours la grande entente.
Dans le chat, Farid nous dit en tout cas Guissolfi perso, je le remercie pour tout et lui souhaite le meilleur. C'est vrai qu'on n'oublie pas hein, quand même le
bon vent. Même
si on a pu lire ici et là que bon, il a essayé un peu de la jouer perso, mais c'est un peu logique aussi.
C'est le monde de l'entreprise du football. Quoi.
Quand il fait venir Laurent Bessière à Lens ou quand il fait venir Benjamin Parot parce qu'il l'a connu à Reims, voilà qu'il y a toutes ces relations. Je pense que c'est quand les staffs aujourd'hui viennent avec tous les gens avec qui ils ont bossé, c'est malheureusement le foot de haut niveau. Alors après, on peut du côté du RC Lens, c'est vrai je peux comprendre les supporters qui disent ah, c'est pas très classe. Et en même temps, quand il vient avec tout son réseau et tous les gens à droite à gauche qu'il a connus, personne ne s'est posé la question en se demandant si c'était classe à l'époque. C'est malheureusement le foot de très très haut niveau d'aujourd'hui. Quand des gens viennent avec avec l'envie d'amener de la compétence, ils viennent avec des gens qu'ils connaissent. Voilà.
Non, et puis c'est un peu son visage, c'est ce qu'on a vu hein, de Guissolfi à chaque fois, intransigeant.
Et on a su
l'apprécier aussi.
Et ça rassure quand même sur l'idée que lui, qui est quand même un mec qui a fait des bonnes choses, il connaît Grégory Thil s'il a voulu le faire venir. Ça dit aussi tout de la qualité supposée d'un mec comme Thil qui jusque-là était dans l'ombre et qu'on ne connaît pas tous encore. Voilà.
Exactement. Antoine, tu voulais rajouter quelque chose pour finir ?
Voilà, et vraiment en conclusion, pour reprendre ce que disait Greg, peut-être qu'on va aussi un peu plus voir Arnaud Pouille dans la lumière, puisque en fait on se rend compte que la gouvernance était reposée sur quatre hommes. Aujourd'hui, elle va reposer sur trois. On l'a vu d'ailleurs pendant sur la photo de l'officialisation de la prolongation de Haise. On voit que là, Arnaud Pouille est présent avec Grégory Thil et Franck Haise. On peut imaginer que Franck Haise va vraiment être sur la partie sportif pro et passerelle avec les équipes N3 et U19. On peut imaginer que Grégory Thil va avoir une forte emprise sur le recrutement et peut-être que Arnaud Pouille, lui, va prendre quelques prérogatives laissées libres par Guissolfi. Voilà, et en tout cas, pour conclure, vraiment, Arnaud Pouille, on parle quand même de l'ancien secrétaire général de la Ligue nationale de rugby. On parle de l'ancien DAF du Stade français, depuis les années 2000. Il était dans l'équipe de Max Boisini qui a quand même fait renaître le Stade français, qui était un club de rugby qui était vraiment perdu pendant des années, qui est remonté au top niveau. On parle d'un monsieur dans le sport. Et aujourd'hui, je pense que c'est peut-être aussi le moment pour lui de s'affirmer en véritable boss du Racing Club de Lens.
Et c'est ce qu'il fait. Pour revenir un peu sur le sujet de tout à l'heure, il y a Jean dans le chat qui nous dit « Faites un sujet pendant la Coupe du Monde sur les TikTokers de Bollard. » Bon, je passe le message à Mathieu. Voilà.
Est-ce que Jean est lui-même un TikToker de Bollard?
On recevra des TikTokers.
Est-ce que ça lui permettrait pas de venir témoigner dans l'émission?
Peut-être qu'il a envie de, il a envie d'avouer des choses, peut-être. On clôt le débat sur la restructuration, hein, sur Franck Haise, sur Grégory Thil, sur Arnaud Pouille, mais on va avoir de toute façon l'occasion de suivre tout ça dans les mois qui suivent, justement, et de voir déjà, peut-être dès le mercato d'hiver, comment ça va se dérouler, même si, encore une fois, c'est préparé bien en amont, j'imagine, encore de l'époque de Florent Guissolfi. Mais est-ce que, oui, maintenant, Nice va essayer de jouer sur les plates-bandes de Lens, ça aussi, on ne sait pas encore. ce sera la suite et on aura le temps de voir ça. Pour l'instant, on va se projeter, messieurs, sur le prochain match, la prochaine rencontre du Racing Club de Lens qui arrive ce samedi soir à 21h. Et ce sera un déplacement au stade Vélodrome de Marseille, des Olympiens qui, après un bon début de saison sur le plan comptable, viennent d'enchaîner deux défaites de suite face au Paris Saint-Germain. Bon, c'est tout le monde peut perdre contre le Paris Saint-Germain. Face à Ajaccio également, c'était à lui au Vélodrome ce match. Les Phocéens qui sont quatrième pour l'instant, derrière le Racing Club de Lens, un point de retard face à nos futurs adversaires. Match au sommet pour les Lensois qui restent sur deux succès de rang, on se souvient quand même au stade Vélodrome l'année dernière et puis il y a deux ans. Est-ce que Damien, pour toi, c'est déjà un match décisif pour le haut de classement, cette rencontre au stade Vélodrome?
Alors, décisif, je n'irai pas jusque-là.
Est-ce qu'on n'est pas un tournant déjà là?
Non. Enfin, on va dire non. Moi, je le vois pas comme un tournant ou comme un match décisif. Enfin, voilà, ça reste l'Olympique de Marseille. Ça va être un match très compliqué à jouer. Mais non, je n'irai pas jusqu'à décisif ou important parce que l'important, c'est justement déjà de gagner les matchs qui sont à notre portée. Ça reste très, très important. C'est ce qu'on n'avait pas su faire lors des deux précédentes saisons. Mais maintenant, on est capable, on le sait, d'aller embêter cet Olympique, enfin d'aller embêter cette équipe de l'Olympique de Marseille. D'autant que eux vont commencer un peu à être cramés, peut-être physiquement. D'autant que là, ils vont jouer trois jours après nous un match très important en Ligue des Champions, puisqu'ils sont toujours en course et même bien en course pour aller se qualifier et passer au-delà de cette phase de groupe. Donc bon, est-ce qu'ils n'auront pas déjà la tête sur ce match? On les joue peut-être. Par contre, là, au bon moment, pour le coup, mais à voir. Enfin, ça reste une équipe avec énormément de qualité, avec d'excellents joueurs sur toutes les lignes. Mais voilà, le Racing est capable du meilleur. Il est capable de gêner cette équipe tactiquement. Donc, moi, je dis why not, mais je n'irai pas jusqu'à match décisif ou tournant de la saison. Voilà, on a encore pas mal de matchs derrière pour se refaire la cerise, mais par contre, c'est un match qui pourrait nous permettre de prendre quelques points d'avance à la fois sur l'Olympique de Marseille et pourquoi pas sur d'autres poursuivants.
Et un Olympique de Marseille qui peut peut-être commencer à gamberger également, Greg, après ces deux défaites de suite. On connaît le passif avec les deux dernières rencontres au stade Vélodrome remportées par le Racing Club de Lens. Malgré tout, Lens n'a plus gagné à l'extérieur depuis deux mois, depuis la victoire à Monaco. C'est vrai. Comment tu vois ce match, toi? Et est-ce que tu crois que l'OM peut commencer un petit peu à gamberger face au Racing Club de Lens?
Non.
Non.
Moi, par exemple, hier, j'ai regardé le classique. Je déteste ce truc. Enfin, bon, moi, tout le monde sait de quel match on parle. En tout cas, j'ai regardé PSG-OM. Je n'ai pas trouvé un Marseille si en dessous de ça. Je pense qu'il y a même deux, trois situations où on peut se poser la question de l'arbitrage, ou en tout cas, qui pose question. J'ai vu un Jonathan Clauss qui peut faire très mal à n'importe quelle défense de Ligue 1 quand il a ces jambes-là. Le Racing va là-bas avec... voilà des questionnements, l'absence de Cabot bien sûr, et pas au maximum de sa confiance non plus dans le jeu. Donc franchement, si Racing ramène déjà un point du Vélodrome, ce sera plutôt pas mal. On peut pas parler de match décisif, moi, pour revenir sur un Lens Marseille, un Marseille Lens décisif. Je me souviens qu'en 2006-2007, Lens va gagner là-bas au mois de mars, prend 10 points d'avance sur l'OM, à 3 quarts en Ligue des Champions, et finit par terminer 5e, alors qu'à ce moment-là, il est 2e avec 10 points d'avance sur l'OM. Donc il est vraiment trop tôt pour parler de ça. Ce qui est sûr, c'est que d'y aller avec en étant 3e du championnat, en étant là bel et bien au chaud, sans pression, c'est quand même vraiment excitant, parce que oui, l'OM a peut-être plus de pression finalement, pas seulement parce qu'il est derrière, mais parce que c'est l'OM, et qu'il sort effectivement d'une défaite, notamment à domicile contre Ajaccio, où ils avaient manqué de réussite évidemment, mais je pense que finalement la situation mentale elle est intéressante, parce que si Lens vient à paumer samedi, ce sera pas la fin du monde. Par contre, l'OM, lui, comme c'est le Vélodrome, et comme il a un objectif de résultat, il a jamais le choix, voilà.
C'est peut-être le moment aussi où Lens va pouvoir retrouver son allant, Antoine, sans véritable pression finalement, comme le dit Greg. La pression, elle est plus sur l'Olympique de Marseille samedi soir.
Oui, je ne veux pas paraphraser Greg, mais il a dit quasiment tout. Je pense qu'effectivement, pour revenir sur la victoire contre Montpellier, c'est là où tu te rends compte qu'elle était hyper importante. Et c'est pour ça que, au-delà du match qu'on a pu trouver un peu décevant ou moyen par moment, avant de te déplacer à Marseille dans le contexte qui a été décrit précédemment, les 3 points contre Montpellier, ils étaient absolument indispensables. Là, tu t'offres le luxe en fait de partir à Marseille, où c'est clairement pas un stade dans lequel, au début de saison, si tu fais un tableau de route, tu vas budgétiser 3 points. Au contraire, là, tu sors d'un derby perdu, tu t'es relancé contre Montpellier. Bah, allez, les gars, maintenant, à Marseille, vous allez vous faire plaisir. Vous allez jouer, on va avoir un adversaire qui ne va pas trop fermer le jeu, normalement. En plus de ça, qui va devoir faire sans Bailly blessé et Gigot expulsé. Ouais. Alors, nous, on parlait de nos problèmes de Cabot et de Grady. Dans un système à 3, les Marseillais là, ils vont devoir jouer sans Kolasinac, ou un Kolasinac qui viendra tout juste de revenir de 3 à 4 semaines d'absence, sans Bailly et sans Gigot. Donc pour un joueur comme Openda qui a un peu la tête dans le guidon depuis 4-5 matchs, je pense que là le garçon il va avoir de l'espace pour courir derrière les défenses adverses. Et j'ai tendance à penser que quoi qu'il arrive, une défaite à Marseille ne sera pas infamante. Donc en fait, ils vont y aller sans pression. Je pense que les éléments de motivation ils vont être faciles à trouver. Et puis nous, en tant que supporters, c'est le genre de match où tu kiffes à 100% quand tu es dans une posture comme la nôtre, c'est-à-dire globalement très confort au classement avec de la marge. Et au final, si tu gagnes à Marseille, je suis d'accord avec Damien, je ne dirais pas que c'est un tournant, mais tu t'affiches encore plus là comme un prétendant à l'Europe.
Ouais. Alors quand même, hein, l'OM a des arguments pour faire vaciller le Racing Club de Lens. Déjà, malgré tout, ils restent sûrs de défaite, donc ils vont vouloir, se racheter, ils vont vouloir retrouver le goût de la victoire. Ils ont quand même aussi hein, de très bons joueurs techniquement. Ils font peur sur le papier en tout cas. Moi, je mets l'OM devant le Racing Club de Lens.
Oui.
Ouais.
C'était pour moi la question.
Oui, c'était pour toi. Oui.
Non, mais encore dans. Ouais, ils sont voilà, sur le papier forcément. Si tu dois mettre le classement en début de saison, tu mets Marseille devant Lens. Mmh. Mais Danso a encore de grandes poches. Et je pense qu'il peut mettre Sanchez, Harit, Guendouzi, peut-être Payet.
Dans la poche arrière. Il aura un beau petit porte-clé là.
Ouais. Non, mais voilà. Après, vous l'avez tous dit, hein, on y va sans pression. 3 points, c'est bien. 0, ce sera pas catastrophique. On a encore maintes occasions de se rattraper et encore se rattraper. Ce sera pas un échec de perdre là-bas.
Faudra quand même être assez bon techniquement hein, parce que là-bas, les erreurs, tu peux les payer vite cash quand même face à l'OM. Hein.
C'est ça, mais il faudra être tous à son meilleur niveau. Là, on pourra pas débriefer lundi en disant un tel a été moins bon. La lumière est venue d'Openda, mais si Openda marque un but et qu'on en prend 3 derrière, ça servira à rien. Mm. Là, il faudra tous être bons au même moment.
Ouais, et puis, alors, clairement, il ne faudra pas un Mbemba comme hier soir, ou alors il faudra vraiment être excellent pour le passer, parce que hier il a été absolument monstrueux. Quoi.
On parle de Danso, mais effectivement, la prestation hier de Mbemba sur Mbappé.
Voilà.
Ouais, mais il aura peut-être tout donné sur ce match-là, justement. Il nous ferait une petite cagade samedi soir. Alors, je vous entends parler d'Openda.
C'est sûr que l'OM, pour moi, c'est clairement la plus grosse adversité qu'on va affronter depuis le début de saison. Je pense clairement que, d'un point de vue effectif, alors là, on parle des joueurs blessés, je pense que ça va un peu chanceler derrière avec les blessures de Bailly et de Gigot. Mais c'est la plus grosse adversité. Et même d'un point de vue duel, on a parlé beaucoup du duel Sampaoli Aiz. Là, ça va être intéressant aussi qui ferme beaucoup de bouches, notamment à commencer par sur la Canebière, Igor Tudor, qui est quand même un coach qui démontre. Et le match d'hier au Parc, là aussi, c'était une belle illustration. Est un coach qui a des idées et qui a l'adhésion de son groupe. Donc, même d'un point de vue tactique, ça va être très intéressant de voir ce duel.
Ça va être intéressant de voir aussi comment va se comporter Jonathan Clauss, Greg, face à son ancien club, évidemment. Alors, ce ne sera pas au Stade Bollard encore, hein, mais malgré tout, on va avoir un peu les yeux rivés sur lui aussi.
Ah bah on a toujours les. Enfin moi j'ai toujours les yeux rivés sur lui, sur un match de l'Olympique de Marseille, comme c'était le cas à Lens. On sent que ça peut être le détonateur quand même. Il a une qualité de pied qui est extraordinaire. Évidemment, son duel avec Haïdara, deux mecs qui se connaissent, ça peut être. C'est l'une des clés de ce match, évidemment. Et après. Après, on reconnaît aussi ses failles, c'est-à-dire qu'évidemment, des fois dans son dos, il y a des choses à faire. Donc là, il faudra être bon côté Lensois pour profiter de ces espaces-là, notamment Openda, de venir peut-être derrière, mettre un peu de vitesse là derrière. Et puis ça peut passer, mais c'est un joueur extraordinaire. Moi, je trouve vraiment on banalise peut-être un peu trop. J'ai entendu pas mal de choses sur lui. C'est un mec qui était amateur encore il y a 5 ans, ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il est aux portes d'aller jouer à la Coupe du Monde et je pense qu'il le mérite. Et donc, je pense à ce poste. Le meilleur du championnat de France, pas loin en tout cas, et donc ce sera un sérieux client pour le
Mais
RC Lens.
s'il y a une équipe ou un coach qui le connaît
Bien
bien,
sûr.
c'est Franck Hess et c'est le Racing Club de Lens
Ah, mais
aussi.
ça peut,
Donc
mais c'est vrai que
voilà.
ça peut jouer, mais à contrario, il connaît aussi bien les. Je pense qu'il donnera quelques conseils aussi ce week-end. Moi,
Probablement.
le seul truc, attention quand même, les Marseillais, ils ont un match quand même hyper important après en Coupe d'Europe,
En Ligue des Champions, ouais.
4 jours après. Je ne sais pas si, par exemple, Jonathan Clauss va jouer les 90 minutes, ça m'étonnerait. Donc, le match à Lens, si Lens tient bien le choc, peut-être que dans un peu la gestion du match qui arrive, voilà, peut-être qu'il y aura peut-être un coup à faire sur les 30 dernières minutes pour moi.
Ouais. Pour finir sur cette projection, vous parliez d'Openda notamment. Est-ce qu'on est sûr qu'il va continuer à être titulaire, Damien Loïs Openda? Est-ce qu'on ne verrait pas un Wesley Saïd qui fait encore bonne impression titulaire? Ou alors Wesley Saïd, finalement, on se dit bah, il est mieux quand il rentre?
C'est là toute la question. Très honnêtement, j'y réfléchissais hein, dans l'après-midi. Je me disais mince, comment on va bien pouvoir jouer. Après Wesley Saïd, pourquoi pas les deux finalement, Openda et Wesley Saïd titulaires, étant donné que Alexis Claude Maurice comme Pereira da Costa pour le moment ne donne pas vraiment de satisfaction. Est-ce qu'on ne verrait pas Saïd tourner autour d'Openda ou... Moi, je dis
C'est
why
vrai que
not,
c'est pas
hein.
une
Tout
mauvaise idée, pourquoi pas?
est possible finalement dans cette équipe. Et enfin, justement, ça doit être un casse-tête également pour l'entraîneur en face, parce que finalement, on a vraiment une palette assez intéressante. Donc, why not? Mais j'espère qu'il sera titulaire, Wesley Saïd. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément et qui ne lâche vraiment pas. Enfin, il a un
Il aime bien le
mental
vélodrome aussi,
d'acier
hein.
et il aime le vélodrome. Donc, on espère une petite clim.
Et rappelons que les deux dernières fois que Lens est allé là-bas a gagné, mais c'est surtout les deux fois où Franck Hez a innové et a surpris tactiquement à l'entrée au début de match. Peut-être qu'il va peut-être refaire ça pour la troisième fois. Alors Damien a raison, on ne sait pas sur quel pied s'avancer dans la composition d'équipe de samedi.
Ouais, j'ai hâte de voir, en tout cas, j'ai hâte d'y être à ce match-là, samedi soir au Stade Vélodrome à 21h. On va pronostiquer ce match, messieurs. Votre score entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens, Thomas Fauvergue.
2-2.
2 buts partout, match nul. Antoine.
J'aurais dit 2-2 aussi, donc je vais rester sur un partout.
Damien.
Allez, 2-1 pour le Racing.
Et Greg.
Victoire 3 buts à 1 de l'Olympique de Marseille 1899 face au Racing Club de Lens 1906. Ça fait beaucoup de chiffres en tout ça. Ouais.
Ça fait beaucoup de chiffres. En tout cas, le résultat à découvrir bien samedi soir, hein, à 23h environ, après le match, le Stade Vélodrome. Et puis un match qu'on débriefera, quoi qu'il arrive, lundi prochain dans Culture 100 et Or. Merci d'être fidèle à l'émission. C'est toujours un plaisir hein, de vous retrouver tous les lundis. Merci Greg, merci Thomas, merci Damien, merci Antoine, merci Alexis à la technique qu'on n'oublie pas évidemment. Merci à tous ceux qui nous suivent tous les lundis, qui sont abonnés à la chaîne. Continuez à vous abonner, ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. Continuez à liker nos émissions également, hein, si vous aimez, ça nous permet ben, de vous les proposer tous les lundis. Et bien d'autres choses encore à suivre. Merci beaucoup, on vous retrouve très prochainement, lundi prochain dans Culture 100 et Or. D'ici là, rendez-vous sur culturesanyor.com. Ciao, bye bye.